c'est la chronique de Roxane de la Sablonnière au bout du fil aujourd'hui. Bonjour Roxane.
Bonjour Hélène, vous allez bien?
Oui, ça va. Et vous?
Ben oui, ça va bien. C'est l'été.
C'est l'été, c'est vrai. L'été qui arrive officiellement à 10h57. Alors, il reste encore quelques minutes.
D'accord.
C'est vous qui allez mettre l'ambiance estivale, malgré que vous allez parler d'un sujet peut-être pas nécessairement jojo, là. L'impact de la stigmatisation sur l'identité des personnes autistes. Laissez-moi vous présenter d'abord de façon correcte et complète. Professeur titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, co-directrice du laboratoire sur les changements sociaux et l'identité. Et donc, vous avez préparé cette chronique en collaboration avec Lina Anafi, qui est étudiante au baccalauréat en neurosciences cognitives à l'Université de Montréal.
Oui, et c'est d'ailleurs Lina qui a eu l'idée là, de cette chronique aujourd'hui que j'aimerais vous présenter. Le but, c'est d'essayer de comprendre comment se forme une identité autiste, aussi lorsqu'on reçoit le diagnostic, puis aussi quel est l'impact que la stigmatisation et même l'auto-stigmatisation peut avoir sur notre identité.
Alors, Roxane, qu'est-ce que l'identité et comment se construit-elle?
Bien, l'identité peut être définie comme la façon dont une personne se représente. C'est ce qui fait que moi, je suis moi et que vous, vous êtes vous et que je suis capable de définir ce qui est moi. Et pour faire ça, bien, je dois savoir ce qui n'est pas moi, donc quelles ne sont pas mes caractéristiques.
Ouais.
Donc, c'est vraiment en observant notre environnement, dans nos contacts sociaux avec les autres, qu'on forme notre identité, qu'elle se construit. Puis c'est comme un peu un triage entre ce qui fait partie de nous ou ce qui ne fait pas partie de nous. Donc, c'est toujours un travail qui se fait constamment. C'est un processus qui n'est pas du tout statique, qui est évolutif, qui se fait tout au long de notre vie, en fonction tout d'abord quand on est tout petit, hein, on doit se développer aussi sur le plan cognitif, donc ça devient de plus en plus complexe, l'identité au fil des stades de développement. Et puis aussi, nos expériences de vie viennent nous influencer. Donc, il y aurait une composante sociale extrêmement importante. On parle ici d'identification à un ou plusieurs groupes qui viennent influencer qui nous sommes comme personnes, comme individus dans notre unicité. Par exemple, si on a une identité de groupe comme étant québécois, bien, ça va influencer comment moi je me perçois ou comment vous vous percevez comme personne. Si vous appartenez à ce groupe ou si vous n'appartenez pas à ce groupe. Donc, en bref, il y a des composantes personnelles, des composantes environnementales ou de l'environnement social qui viennent influencer comment nous sommes et qui nous sommes aussi.
Ouais. Et l'autisme dans tout ça?
Ben, l'autisme, on ne choisit pas toujours l'appartenance au groupe. Donc, on est né ici, par exemple, au Québec. Donc, si on obtient ou on a un diagnostic d'autisme, bien, ça peut avoir un impact. Surtout que souvent, ce type de diagnostic, ça peut être certaines maladies mentales aussi, il peut y avoir des stigmas associés à ça, des stéréotypes. Ça peut influencer comment on se perçoit ou comment on perçoit les autres. Donc, si je vous demande, par exemple, là, je change complètement de sujet, Hélène. Mm-hmm. Si je vous demande, par exemple, de vous imaginer dans votre tête une pomme, est-ce que vous la voyez? OK, vous la voyez.
Oui.
Si vous allez me dire, bien, elle est rouge, elle est croquante. Là, si je vous dis, oui, mais finalement, la pomme est un petit peu molle, puis il y a des trous dedans. Là, vous la voyez autrement.
Puis là, on n'a pas le goût de la manger.
On n'a pas nécessairement le goût de la manger. Puis si je vous dis ben de me redécrire une pomme, ben c'est peut-être cette dernière pomme-là que vous allez voir. Puis c'est un peu ça aussi qui arrive lorsqu'il y a des diagnostics ou bien des perceptions qu'on a des gens qui pourraient être autistes, par exemple. On a une tendance à voir ou avoir une représentation qui peut être négative, puis c'est difficile d'enlever cette représentation-là par la suite si on n'y travaille pas. Et puis, ça peut être extrêmement difficile, les cas de stigmatisation, surtout lorsque c'est plus extrême, lorsque les gens sont mis de côté, parce que l'individu peut être réduit à une seule facette de son identité, c'est-à-dire il est autiste, puis c'est tout, ça s'arrête là. Alors que l'identité, c'est beaucoup plus complexe que ça. On a plusieurs caractéristiques qui nous définissent, puis c'est un travail de longue haleine.
C'est pour ça l'importance de dire une personne autiste et non un autiste ou une autiste, parce que c'est justement l'autisme ne définit pas complètement cette personne.
Oui, et puis plusieurs autres choses. C'est peut-être un homme ou une femme, c'est peut-être un père ou une mère. Donc, l'identité, c'est pas juste notre diagnostic. Puis même dans ce diagnostic-là, il peut y avoir plein d'autres caractéristiques, comme le fait d'être unique, le fait d'être travaillant ou déterminé. Donc, qui pourrait aussi influencer comment on se perçoit ou comment les autres nous perçoivent. Donc, de ne pas réduire à une seule caractéristique, ça facilite évidemment. Puis le problème en lien avec ça, c'est souvent qu'il y a une auto-stigmatisation. Ça veut dire qu'on attribue des caractéristiques qui peuvent être négatives à soi-même. Puis c'est ce que les personnes, en recevant un diagnostic, pourraient faire parce qu'ils connaissent ces stéréotypes négatifs-là concernant. Puis pour moi, il y a une étude qui est extrêmement marquante, qui date de 1947. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a été faite par Kenneth et Mamie Clark, qui illustrent ce phénomène de l'auto-stigmatisation. Puis dans leur expérimentation, là, on change de domaine. On montrait à des enfants, des jeunes enfants, des poupées. Les poupées pouvaient être blanches ou noires.
Ah oui, je me souviens. Oui.
Puis on leur demandait quelle est leur poupée préférée, quelles sont les poupées qui sont gentilles, douces, intelligentes. Et puis les enfants de couleur, donc les enfants noirs, avaient plus tendance à associer des caractéristiques négatives aux poupées noires et ils choisissaient aussi moins les poupées noires pour jouer. Donc, ça montre qu'il y avait un processus d'auto-stigmatisation qui pouvait même venir teinter leur construction identitaire et qu'ils s'appropriaient d'une certaine façon ce stéréotype négatif.
Et quel est l'effet du phénomène d'auto-stigmatisation dans la vie des personnes autistes? J'imagine que c'est un effet négatif.
Oui, il peut y avoir plusieurs effets négatifs, mais il y a aussi des façons de faire pour retourner la situation. Mais il faut en être conscient et il faut vouloir travailler. Donc, les effets négatifs de l'auto-stigmatisation, c'est une perte d'estime de soi, une baisse du bien-être psychologique. Puis il y a même une étude au Royaume-Uni de 2014 qui a montré que les personnes Asperger avaient neuf fois plus susceptibles d'avoir des idées suicidaires que la population générale. Donc, vous avez raison, il y a des effets négatifs. Puis, il y a plusieurs façons dont les gens peuvent réagir lorsqu'ils vivent dans ce contexte ou lorsqu'ils sont autistes. Ils peuvent parfois se détacher complètement de leur diagnostic, c'est-à-dire d'essayer de se faire passer pour une personne qui n'a pas ce diagnostic-là, avoir l'air d'être normal, en guillemets, là, pour re-questionner ce que ça veut dire, ou même avoir des comportements de camouflage. Mais l'auto-stigmatisation, puis ce type de comportement où on essaie de se détacher de ce diagnostic, ce n'est pas les seuls. Il y a aussi d'autres personnes qui vont choisir d'accepter le diagnostic et aussi de se concentrer sur des caractéristiques qui sont plus positives. Donc, comme vous l'avez dit plus tôt, de dégager ou de détacher plusieurs autres caractéristiques associées à ce diagnostic-là, ou bien qui n'est pas associé aussi, renforcer peut-être le fait d'être une mère ou un père ou d'être une bonne personne. Donc, ces personnes-là vont se protéger d'une certaine façon s'ils arrivent à accepter puis aussi renforcer, axer sur les forces. Et puis finalement, les personnes autistes qui s'identifieraient plus aux personnes autistes, bien, ça les aiderait aussi à mieux se porter puis à attribuer plus de caractéristiques positives. Donc, il semble que le fait d'intégrer, de prendre le temps de réfléchir puis d'intégrer ce diagnostic pourrait les aider à long terme. Puis si je peux dire en conclusion, c'est important de prendre compte de ce phénomène, du fait que certaines personnes reçoivent un diagnostic, que ça peut être difficile aussi, qu'il y a de la stigmatisation associée à ce type de diagnostic. Il y a de l'auto-stigmatisation, puis d'en prendre conscience, ça pourrait favoriser une implantation, par exemple, dans le système scolaire, afin que très rapidement les enfants, quels qu'ils soient, bien, aient une image peut-être plus positive, de renforcer vraiment les forces, quel que soit le diagnostic. Puis, bon, on parle de diagnostic là, d'autisme.
Roxane, vous avez parlé d'auto, des effets négatifs là, du phénomène d'auto-stigmatisation. Ça peut aller jusqu'à des gros problèmes d'estime de soi, des idées suicidaires. Alors, je me permets de donner le numéro là, si il y a des personnes qui ont besoin d'aide concernant qui ont des idées suicidaires. 1-866-APPEL, 1-866-277-3553, 1-866-277-3553. Et merci pour cette chronique.
Bien, merci à vous. Je souhaite un bel été à tous vos auditeurs et auditrices et à vous-même.
Bien, vous êtes bien gentils. Je vous en souhaite un tout aussi beau. Et on va se retrouver, nous, un petit peu plus tard au courant de l'été. Je pense que votre prochaine chronique va se faire avec mon collègue Denis-Martin Chabot qui sera pendant mes vacances.
Parfait, ça va me faire plaisir.
Portez-vous bien, Roxane. Merci pour
tout. Bonne journée. Bye-bye.